au réseau Cogeco, vous écoutez Entre nous avec Sylvain Ménard.
On poursuit notre entretien avec Pierre Lapointe. Est-ce qu'il y a des moments en spectacle, parce que là, tu amorces ta tournée, là, t'es déjà dedans?
Oui, ça commence en mi-février, on commence ça.
Et tu vas te payer une résidence à l'usine C à Montréal, entre autres.
Ouais.
D'être là en résidence, pouvoir déposer ses valises pour une couple de soirs, ça doit tout changer dans l'approche.
Ben, il y a quelque chose de, d'agréable aussi, parce qu'on a l'impression d'habiter notre ville. J'habite Montréal, donc il y a quelque chose de le fun d'être chez toi durant la journée puis d'aller travailler.
Et ce n'est plus qu'un point de tournée,
c'est
là.
C'est pas, on prend l'auto puis on fait minimum une heure et demie de voiture. Il y a quelque chose de, tu sais, d'aller travailler en métro, c'est le fun. Je le vis pas souvent dans la vie.
Puis on va pas faire la plus grosse salle. On va pas faire la plus grosse salle un soir puis ensuite passer à autre chose.
Ouais, puis il y a quelque chose de bien dans cette idée-là de prendre le temps.
Ouais.
J'aime bien ça. Je me vois vraiment comme un artisan, moi. Il y a un côté vedette, là, avec la voix, puis toutes ces affaires-là, puis les entrevues, puis les tapis rouges, puis la disque, mais c'est pas la 99% de mon temps. Je suis un artisan, puis j'aime bien ça, être dans cette dynamique-là par rapport à mon travail, de dire, moi, je fais mes petites affaires, des petits trucs, je peaufine ma méthode de travail petit à petit depuis 20 ans maintenant, bientôt.
Pierre Lapointe, est-ce que tu as absolument besoin de la scène pour sentir qu'une fois de temps en temps, l'ange vient de passer? Est-ce que l'ange passe en studio?
En studio, oui. J'ai la chance d'avoir des belles équipes et d'aimer toutes les phases du travail. Même la promo que souvent les gens détestent, moi, j'aime ça jusqu'à un certain point, mais j'aime ça aller parler du projet que j'ai monté avec mon équipe. Puis moi, que ce soit le studio, c'est totalement une autre approche. C'est pour ça, des fois, même je fais des albums, puis le spectacle de tournée est pas du tout pareil comme l'album. Parce que pour moi, chaque médium, chaque forme de présentation est un médium différent, puis chacun a ses forces et faiblesses. Puis j'essaye de toujours utiliser ces projets-là pour me mettre un peu au défi, puis trouver des nouvelles formules, toujours.
Mais il y a des soirs où il se passe de quoi?
Il y a des soirs où il se passe quelque chose. Il y a des soirs où je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça se passe mal. Puis il y a des fois, il y a une espèce de moment magique où je reste...
Un moment chimique.
Un moment chimique qui se
les
prépare
éléments,
pas.
Tous les éléments sont là.
Ça ne se prépare pas, ça ne se planifie pas, ces moments-là.
C'est ça, c'est pas une science exacte, surtout pas. Ben, elle devient exacte quand elle se produit.
Ouais, mais c'est ça.
Il y a
c'est...
des spectacles, des fois. On en parlait pendant la pause. Le grand spectacle que tu avais donné au Franco de 2006, je pense.
2007.
2007, à ce moment-là. Avec l'Orchestre métropolitain et Yannick Nézet-Séguin. Ce soir-là.
Il s'est passé quelque chose.
Pour nous, il s'est passé quelque chose, mais pour vous autres sur scène.
Ouais, aussi, mais j'étais tellement stressé parce qu'il y avait un show de radio, un show de télé, un album et un show de clôture. Tout ça se faisait en même temps. Et s'il y avait une goutte de pluie, tout tombait à l'eau, c'est le cas de le dire.
Et il y avait apparence de pluie cette
fois-là. En fait, à 1h du matin, il y a eu un méga orage électrique. Donc, tout de suite après que le matériel ait été ramassé.
L'orage s'était gardé en suspens.
Ouais. Puis, je suis arrivé sur scène, j'étais tellement stressé, mais tellement qu'à un moment, j'ai complètement décroché. Et je suis devenu juste épuisé. Et je suis monté sur scène dans cet état-là et j'ai vécu un état de lévitement. Je n'étais plus dans mon corps. J'étais comme dans un bain d'eau salée à température de mon corps. Je flottais. J'avais des vêtements, mais mon souvenir, c'est que je sentais mes poils de corps flotter dans l'air. Donc, j'ai eu, je pense, dû à une surdose de dopamine.
J'ai eu un rush.
J'ai été drogué. J'ai jamais fait de drogue dans ma vie. Pas de drogue hallucinogène, par conséquent. Et je pense que mon cerveau a surproduit quelque chose qui a fait que j'ai vécu un état de... J'ai lévité. Et puis, sur scène, sur disque, je pense pas qu'on le sente tant que ça, mais les gens qui ont assisté au spectacle, c'est quand même la première fois qu'au Francofolie, il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient là. Et je pense qu'il y a eu un moment...
Oui, c'est un événement charnière dans l'histoire des Franco.
Dans l'histoire des Franco et dans ma carrière aussi. Puis j'espère dans l'histoire du petit Montréal musical. Mais il y a eu un moment magique qui ne s'explique pas. Et puis, je suis heureux d'avoir été le vecteur qui a fait que ça s'est passé.
Non, c'était un moment de démesure. Je peux en témoigner comme spectateur. Ouais. C'était un moment de démesure. On se retrouvait dans la zone de Diane Dufresne avec les premiers spectacles de Charles Lebois. Il y avait tout ça. Et il y avait aussi une disponibilité des gens qui, pourtant, On parle des spectacles de rue, puis on dit oui, mais c'est des badauds qui sont là. Ben là, je m'excuse, mais c'était des gens qui étaient attentifs puis qui s'étaient déplacés pour vous autres.
Il y avait, je me rappelle, les gens de mon équipe qui étaient dans la foule me disaient, on entendait les mouches voler. Il y avait personne qui parlait. Il y avait 100 000 personnes qui écoutaient. C'est quand même très, très singulier.
Oui.
Puis c'était aussi le point final à la tournée de La Forêt des Mal-Aimés, l'album et la tournée qui avait été quand même phénoménal.
Mm-hmm.
On a battu des records de vente avec ça. Dans la première semaine, je crois qu'on avait fait 32 000 copies vendues en moins d'une semaine.
Il fut un temps où?
Ouais, mais à cette époque-là, Céline Dion. Non, mais c'était Céline Dion qui avait fait ça. Sinon, il y avait personne qui avait fait ça. Donc, il s'est passé quelque chose avec cet album-là. Je suis arrivé au bon moment avec le bon truc et puis les gens avaient besoin de ça. Donc, je pense que ça participait aussi de la magie du projet sur scène avec Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre Métropolitain.
Et pourtant, Pierre Lapointe, tu me dis que ce soir-là, tu étais abandonné d'une certaine manière.
J'étais comme dans mon salon, en fait.
Bon. Et pourtant, ce que j'ai retenu de cette soirée-là, c'est que tu étais en contrôle total d'absolument tout.
Ben, encore une fois, je pense que c'est...
Tu m'annonces 12 ans plus tard que c'était le contraire.
Ouais, je pense que c'est un drôle de métier parce que t'es bon quand t'es dans l'abandon, mais t'es dans l'abandon parce que tu contrôles tout. Puis je pense que même dans ma vie personnelle ou dans ma façon de gérer une crise, je reste d'un calme et d'une lucidité absolument déconcertante. Même moi, ça me fait tout étrange souvent quand je revis des moments.
Ah oui?
Ouais, parce que je reste extrêmement sensible, mais d'une sensibilité qui m'a joué des tours et qu'il a fallu que j'apprenne à gérer. Et en même temps, j'ai une capacité, une lucidité et un cerveau qui est anormalement lucide et
une sensibilité cartésienne.
On
est en train d'inventer un concept.
Mais dans les deux cas, c'est pour ça la science du cœur, c'était aussi ça, c'est que j'ai une approche scientifique d'une émotion et un ne va jamais miner l'autre. Et c'est très, très étrange de vivre dans cet état-là. C'est étrange pour les gens autour de moi, mais c'est étrange pour moi. Et je commence à comprendre comment fonctionne avec ça, mais c'est très, très singulier. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive à faire des objets comme ceux que je fais, puis j'arrive à être comme ça sur scène.
Mais est-ce que c'est un phénomène qui va en grandissant avec l'âge?
C'est un phénomène avec lequel je peux jouer de plus en plus et de mieux en mieux.
Ouais.
Avec l'âge. Maintenant, ça fait partie de moi. J'étais enfant, j'étais comme ça. Mais j'ai toujours été... Moi, quand je voulais pas faire quelque chose, et mes parents peuvent témoigner, je regardais mes parents, je disais, je le ferai pas. Ils me disaient, ben oui, tu vas le faire. Non. Et je tombais malade dans la minute. Mais fiévreux, par terre, plus capable de fonctionner, des sueurs, la tremblotte, tout. Et j'allais chez le médecin, j'étais vraiment malade. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc, maintenant, je ne me laisse plus aller.
Tu ne te rends pas malade à toutes les cinq minutes, non?
Maintenant,
mais quand c'est non, c'est non.
Mais j'ai j'ai un corps et un cerveau très singulier. Et j'en parle de façon détachée, comme si ces deux éléments-là ne m'appartenaient pas, parce que j'ai été obligé de développer ce recul-là, cette lucidité-là sur moi-même, parce qu'il y a quelque chose de très... C'est très singulier, oui.
Et contrairement à plusieurs, tu ne t'affiches pas comme étant TDAH. C'est la grosse mode maintenant.
J'ai une singularité cérébrale, oui, je peux le dire, et j'ai été obligé de trouver des moyens pour fonctionner. Je suis dyslexique. J'ai jamais eu des bonnes notes à l'école. J'ai jamais pu lire la musique. J'ai jamais pu écrire la musique. Et ça a été... Pour moi, lire un livre, je le dis là, c'est une épreuve. Parce que je n'ai pas cette capacité-là de... Mon monde senti est anormalement développé, mais mon monde concret ne l'est pas.
Okay.
Et j'ai développé des réflexes sociaux qui font que je suis anormalement intégré à la société, mais j'ai
capable de faire avec.
Mais j'ai tout ce qu'il faut pour pas fonctionner. Le jour où j'ai compris que c'est pas parce que j'étais stupide ou lent que je réussissais pas à fonctionner, mais c'est parce que j'avais une autre façon d'organiser mon cerveau, ben, ça a donné ce que vous voyez encore aujourd'hui. Je me suis dit, plus personne va me dire que je ne comprends pas. Au contraire, je comprends très, très bien. mais là, tassez-vous de là parce que je vais en détruire des murs puis je vais en ouvrir des portes qui normalement s'ouvrent pas. Et ça fait la carrière que je fais là et je vais faire ça jusqu'à la fin de mes shows parce
mais
que
là,
j'ai confiance en moi maintenant.
Subitement, je viens de comprendre pourquoi le dernier album s'appelle « Pour déjouer l'ennui ».
J'ai la maladie de l'ennui, je le dis depuis que je suis enfant.
Mais tu es aussi capable de déjouer cette maladie-là.
Je suis capable d'être beaucoup de choses. Maintenant, ça me demande des efforts énormes. Ça me demande une concentration énorme. Et ben, c'est ça avec les années. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je n'ai jamais accepté l'idée de me voir comme différent. Donc, je me suis toujours poussé à aller plus loin et à jouer avec les éléments au lieu de me placer en victime. Et c'est, je pense, pour un créateur, un atout extraordinaire parce qu'il n'y a plus jamais de problème. Tu n'as plus peur. Il n'y a plus de problème. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que 12 millions d'avenues possibles. Donc, tout devient un jeu. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai pu exceller de belles manières.
Mais Pierre Lapointe, l'ennui, n'est-ce pas la grande disparue de notre société quand je regarde l'instantanéité de tout?
Complètement.
Les messages, textes, les sollicitations, l'ennui, il n'y a plus de place pour l'ennui.
Je pense que quand on est créatif, la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est de nous ennuyer. Moi, mon cerveau a des idées fabuleuses quand je m'emmerde puis je trouve le temps long. Et puis, c'est pour ça que je stimule ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent du 9 à 5 dans des jobs très concrets, des emplois très concrets, qui comprennent pas que les artistes ils font rien ou c'est une autre façon d'organiser la pensée. Je suis surproductif si on regarde tout ce que j'ai fait en 20 ans. J'ai fait un nombre de spectacles, un nombre d'albums incroyablement anormal. Maintenant, c'est aussi parce que j'ai passé des journées à rien faire. Mais à rien faire, genre à vouloir mourir tellement je trouvais le temps long. Et puis, ben, il y a des trucs qui se sont passés en moi. On travaille l'intangible, on travaille le senti. Et le senti, il faut prendre le temps de le laisser remonter. Maintenant, j'ai une entreprise qui marche bien depuis 20 ans.
À savoir toi-même.
Moi-même, et je fais des affaires. J'ai des bons réflexes d'homme d'affaires.
Ouais.
Et j'ai des bons réflexes de créateur aussi. Et puis, je participe à tout ça avec beaucoup de plaisir. Maintenant, j'ai la maladie de l'ennui. Je m'emmerde vite, vite, vite.
Mais pour ramener l'ennui sur une base généralisée, il faudrait peut-être ramener, exemple, les dimanches plates. Les dimanches, tout est fermé, où on n'a rien
Europe,
à faire.
En Europe, je passe beaucoup de temps en France, puis en Europe, le dimanche, il n'y a presque rien d'ouvert. Puis moi, je leur dis toujours, ne touchez jamais à ça.
Vous ne savez pas ce que vous avez.
Faut à ça.
Les dimanches après-midi, avant, c'était fait pour regarder des films à la télé. Or, il y a une chanson sur ton dernier album qui évoque à peu près tous les films que j'ai pu regarder quand j'étais jeune. Le Monarque des Indes.
Oui,
On l'écoute. De Pierre Lapointe.
Plus d'une semaine passée ensemble, je ne sais pas à quoi on ressemble. Les heures qu'on a passées au lit ont eu raison de notre ennui et font qu'elle est plus belle la vie. Tu tisses des étoffes de joie avec tes rires, avec ta voix. Tu fous le feu à mes combats. Je ne sais pas qui gagnera, ma peur, mes vertiges ou ma foi. Je ne sais où on s'en va. Je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine. Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés de cette douce virilité. Tes airs de monarque des Indes auraient déjà dû me faire craindre. Ce grand voyage étourdissant, propulsé dans le firmament, j'ai peur d'avoir mal en tombant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas comprendre où mènent les histoires qui valent la peine. Est-ce une passion corporelle ou l'amour à dos d'hirondelle? La distance qui nous sépare fait qu'on doit remettre à plus tard le verdict face à nos espoirs. Tu dessines des murs, des plafonds, moi je saoule avec des chansons. séparés par un océan. On marche sur un fil d'argent. J'aimerais pouvoir être géant. Je ne sais où on s'en va. Je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine.
Le monarque des Indes, Pierre Lapointe, avec évidemment l'apport d'Albin de la Simone.
Oui, une chanson qu'on a faite ensemble, tous les deux.
C'est ton alter ego, ce gars-là.
C'est mon grand ami. J'en ai plein. Ça me fait toujours drôle d'entendre ça parce que j'ai plein d'alter ego. Maintenant, lui, c'est un grand ami.
Il est l'alter ego.
Non, mais j'en ai plein de monde autour de qui je me réclame. Ego. Non, mais je me réclame de plein de monde. Tu sais, Ariane Moffat, c'est con, mais elle m'a influencé beaucoup. C'est une amie aussi. T'sais, pour moi, chaque amitié me nourrit. Puis chaque rencontre musicale, quand j'aime le travail de quelqu'un, ça me nourrit. Maintenant, Albin, c'est pas pour rien que je lui ai confié la réalisation de ce disque-là. Albin de la Simone, c'est un chanteur français qui est très connu en France, mais dans la vague chansonnier, vraiment dans la grande tradition des chansonniers. Et puis, on s'est liés d'amitié en 2002, 2003 déjà. Ça fait déjà longtemps.
Mais vous êtes sur la même fréquence.
On est sur la même fréquence. On a des voix qui se ressemblent. On n'a pas du tout la même approche du métier, mais on a le même genre d'amour pour la chanson. Je dirais traditionnel francophone. Et donc, je suis allé chez lui, je lui ai fait écouter plein de musique qui me faisait penser à là où je voulais aller avec l'album. Et puis, on s'est assis au piano. Puis, lui, il avait jamais fait ça. Je lui ai dit, mets-toi à jouer quelque chose, on va écrire quelque chose. On a écrit la chanson très, très rapidement, donc Le Monarque des Indes. Pour moi, c'est la chanson qui représente le mieux l'esprit que j'avais en tête au moment où j'ai commencé à travailler sur le disque. Ouais, cette idée un peu de musique du monde, de guitare, de trucs très rassurants, de trucs un peu aussi... C'est drôle ce que je dis dans la chanson, ça parle d'un début d'amour, mais il y a quelque chose de léger qui se prend pas trop au sérieux.
Léger qui se prend pas trop au sérieux.
Ouais, je pense que ça, même si tout ce que je fais est très réfléchi, puis mon métier est très sérieux.
Entendre ça de la bouche de Pierre Lapointe, je veux dire,
il y a quelque chose, mais je me prends pas au sérieux, puis je pense que c'est pour ça aussi que je garde les collaborateurs que j'ai depuis 20 ans, puis que ceux qui embarquent dans mes projets souvent veulent retravailler encore avec moi, c'est que c'est 98% du temps, c'est toujours drôle et agréable, et je suis pas là pour me gonfler l'ego, mais je suis le premier à rire de moi puis dire, pas là, c'était pas bon ça. Puis
ça te dérange pas d'être confronté non plus. Hein.
Non, j'ai du plaisir à avoir des gens autour de moi qui me disent ce qu'ils pensent. J'ai du plaisir à écouter l'autre,
oui,
à savoir qu'est-ce qu'il sent. Puis j'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai la prétention d'avoir assez confiance en moi.
Habituellement, les artistes qui prétendent ne pas craindre d'être contredits, confrontés, sont ceux ou celles qui le supportent le moins. Plus on en parle, moins on l'est.
Ben, faudrait aller demander aux gens avec qui ça.
Non, mais dans ton cas, je me suis informé et on m'a confirmé que toi, la contradiction et la remise en question.
Non, si je sens que les gens, les fois où j'ai pas été ouvert, c'est que je sentais que les gens étaient de mauvaise foi, étaient dans une game de pouvoir. Quand on joue comme ça à être ouvert aux commentaires puis à être bien avec les autres, il faut que les autres soient dans la même, faut pas qu'il y ait de guerre de territoire. Faut qu'on soit tout le monde sur la même longueur d'onde. Puis 99% des projets que j'ai faits, c'était comme ça. Et ça m'a toujours rassuré sur l'humain. Parce que j'aime même pas le mot compromis. Parce que le mot compromis, c'est piler sur quelque chose qu'on aurait aimé faire, puis arriver à quelque chose de moyen. Puis la moyenne, moi, m'intéresse pas. Moi,
la ligne du milieu,
ça m'intéresse. Faut pas faire des trucs mièvres, faut faire des trucs racés, faut à la limite déplaire parce qu'on est trop racé. Moi, je suis toujours dans cette philosophie-là. Maintenant, dans ma tête, c'est toujours être impressionné par le résultat de la collaboration. Puis la vraie collaboration, on n'est pas en train de piler sur ce qu'on a envie de faire, on est amusé et surpris par la rencontre. Et puis pour moi, ce métier-là sert à ça, la rencontre. Avec le public, avec le médium, avec l'art, puis avec les collaborateurs, avec les autres. D'ailleurs, pour déjouer l'ennui, j'ai écrit paroles, musique, moi seul, je pense, 4 chansons. Le restant, c'est que des collabos. J'aurais pas pu écrire si rapidement si j'avais tout fait tout seul. J'aurais pu, mais ça aurait été moins intéressant. Je profite de cette ouverture-là. Mon corpus, ma carrière et l'image que je projette profitent de cette ouverture-là et de la part des collaborateurs. Et je leur fais toujours une grande place. Je nomme « Pour déjouer l'ennui », c'est une phrase qui a été trouvée par Julien Chiasson et Hubert Lenoir, anciennement Hubert Chiasson.
Ouais.
À l'époque où on écrit la chanson, c'est les deux frères Chiasson.
The Seasons.
Qui étaient dans The Seasons à l'époque. Et donc, Hubert, avant qu'il devienne Hubert Lenoir, et Julien Chiasson, on a écrit ensemble Pour déjouer l'ennui. Puis c'est pas une phrase que j'ai trouvée. J'ai donné le nom de mon album. C'est Pour déjouer l'ennui. Justement, parce que je trouvais ça le fun de dire, ben, ce projet-là, c'est tellement pas juste mon projet que j'ai même pas de malaise à dire que ce titre-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé.
Et c'est pas grave.
Et non, parce que le résultat final est bon. Ce qui compte, c'est avoir un objet de qualité entre nos mains. C'est tout.
J'ai très hâte de voir le spectacle. J'ai hâte de voir ça.
Ça va être un spectacle doux et agréable.
Ah, j'en doute pas une seconde. Et là, j'ai la liste devant moi. Je commencerai pas à faire la nomenclature parce que l'émission
est déjà terminée. On en a déjà pas mal annoncé.
Ouais. Ben, c'est ça. Ben, en tout cas, il y a Montréal.
Faut aller voir sur pierrelapointe.com. On commence par Québec au Grand Théâtre et par Montréal, par la suite. Et après ça, on fait le tour du Québec. On va en France aussi. Mais allez voir sur pierrelapointe.com. Toutes les dates sont là. Il y a des grosses chances que je passe par chez vous.
Et si vous voulez une dose de Pierre Lapointe une fois de temps en temps, il est à la voix régulièrement.
En plus, je suis là.
Une émission du champ gauche.
Une émission du champ. Ben, qui est comme, c'est comme dans un drôle de milieu, la voix. C'est avec Cœur de Pirate, Garou, Marc Dupré et moi, on est dans une drôle de place que je trouve assez intéressante.
Appelons ça de l'éclectisme.
Ouais.
On a commencé l'émission avec la chanson « Dis-moi, je ne sais pas ». On en a entendu un extrait. On va terminer l'émission avec la chanson « Dis-moi, je ne sais pas », mais on va l'écouter au complet.
D'accord.
Merci beaucoup, Pierre Lapointe.
Merci à toi, ça me fait très plaisir.
Toi qui sais manier la joie et la guider du bout des doigts, comment faire pour garder captifs ces sentiments, ces rires vifs, ces bonheurs, ces soleils immenses? Où as-tu appris cette danse? Apprends-moi chacun de ces pas. Dis-moi, dis-moi, je ne sais pas. Fais-tu pour être fort face à la vie, face à la mort? Dis-moi comment changer en or une tunique de remords. Moi aussi, je veux la chanter, cette joie de vivre, cette arrogance. Moi aussi, je veux la dompter et porter sur mon dos la chance. Comment fais-tu pour aligner des mots lumineux de paillettes? Je voudrais être dans ton corps, je voudrais être dans ta tête. Toujours cette lourde présence derrière moi, cette solitude. Un hiver dure depuis des mois, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, j'ai froid. Ce n'est pas difficile, que le bonheur est comme l'argile. Suffit de savoir le modeler, copiant les traits de nos désirs. Mais j'ai peur de devoir mentir à ceux que j'aime, à ceux qui m'aiment, en me cachant comme un enfant derrière des montagnes de rire. Je veux des silences joyeux, de beaux manèges faciles, avant que je ne sois trop vieux, pour faire taire mes larmes fragiles. Ô toi qui sais manier la joie, où as-tu appris cette danse? Prends-moi chacun de ces pas, dis-moi, 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 je ne sais pas.